Avec Bruno David, invité ce matin. Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Vous êtes docteur en paléontologie, biologiste marin et président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous êtes l'auteur d'un livre, passionnant, hein, qui tente à démontrer que eh bien, nous sommes à l'aube d'une sixième extinction de la majorité des espèces vivantes sur Terre. Reste à savoir si on peut encore inverser la tendance. Eh bien, vous répondez que la réponse est entre nos mains. Ce livre paraît chez Grasset. Question donc ce matin sur l'évolution de la biodiversité. Et vous écrivez les biodiversités au pluriel, c'est-à-dire...
Oh, c'est une façon de montrer que la biodiversité, c'est quelque chose de compliqué, parce que souvent, on définit la biodiversité comme étant le tissu vivant de la planète. Ouais. Donc, c'est un entrelacement de fils et l'image est intéressante.
Pourquoi
justement
le mettre au pluriel?
Alors, parce que selon ce qu'on va regarder, on a l'impression de voir plusieurs biodiversités. On peut s'intéresser à des espèces emblématiques, on peut s'intéresser simplement au nombre d'espèces qu'on a sous les yeux, on peut s'intéresser aux abondances, c'est-à-dire au nombre d'individus qu'il y a dans chaque espèce, on peut s'intéresser aux relations d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui domine par rapport à des espèces qui seraient beaucoup plus rares, on peut s'intéresser à des écosystèmes particuliers, on peut s'intéresser aux gènes, on peut s'intéresser aux relations entre espèces.
Au virus, vous rappelez que le virus est un vivant.
Et tout ça fait partie de la biodiversité, donc on peut avoir plusieurs regard comme plusieurs projecteurs de couleurs différentes qui éclaireraient le même objet. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu un jeu de mots, si vous voulez, je mets biodiversité au pluriel.
D'ailleurs, ça ne fait qu'une trentaine d'années, hein, vous le rappelez dans votre livre, que des mesures rigoureuses chapitrent l'évolution des biodiversités. Avant les années 80, ça veut dire que la biodiversité, ça n'intéressait pas grand monde.
Bah déjà, le terme n'existait pas. Et je pense que d'avoir simplement un terme pour nommer les choses, c'est important. Alors après, il faut observer, il faut analyser, il faut essayer de comprendre. Une fois qu'on a compris, on peut éventuellement agir. Mais tout ça, ça se fait dans cet ordre-là. Et pour la biodiversité, on est parti avec un certain retard par rapport à ce qui s'est fait, par exemple, pour le climat.
Mais il faut d'abord, Bruno David, d'abord une connaissance. Quelquefois, on a davantage une opinion. En tout cas, avant d'avoir une connaissance, on a une opinion. Et vous expliquez bien que comme le savoir s'est enrichi, que les découvertes se sont démultipliées, c'est au fond de plus en plus difficile de comprendre les choses.
Oui,
elles sont complexes, en fait.
Oui, si on était au XVIIIe siècle, par exemple, des gens très éclairés pouvaient embrasser à peu près la connaissance humaine, pas forcément dans tous ses détails,
mais c'était à peu près...
Oui, c'est un petit peu avant, quand même. Mais je parle du pic de la Mirandole, justement. Mais même au XVIIe, au XVIIIe, c'était encore possible. Aujourd'hui, la science, elle s'est diffusée, elle a beaucoup, beaucoup progressé, ce qui fait que dans chaque domaine, c'est très, très difficile d'être au courant. Et même en tant que scientifique, on est au courant de son domaine, on n'est pas au courant du domaine du voisin. Donc à partir de là, communiquer aussi devient difficile. Et il y a des choses qui sont compliquées à expliquer éventuellement. Et je pense qu'il ne faut pas renâcler devant la complexité. Il ne faut pas refuser d'aborder la complexité, parce que si on réduit trop cette complexité, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être pédagogue, mais si on réduit trop cette complexité, on ramène la science à une opinion.
On bascule dans l'irrationnel.
Et on bascule dans l'irrationnel, c'est-à-dire
qu'on bascule dans le ressenti, écrivez-vous dans le livre.
C'est-à-dire que je vais avoir une opinion, vous avez une opinion, puis on va se disputer parce qu'on n'aura pas la même opinion. La science, c'est pas ça. Donc il faut accepter cette complexité. Et je dis souvent, derrière cette complexité, il faut accepter les incertitudes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à accepter, surtout dans ces temps de pandémie, où c'est difficile d'accepter des incertitudes, c'est-à-dire des scénarios qui sont plus ou moins probables. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas bien. Il faut accepter tout ça.
Et pour défendre la biodiversité, vous parliez de communication à l'instant, le problème c'est que la lutte contre le climat a tendance à vampiriser les énergies pour défendre la biodiversité. Parle que de lutte contre le climat.
Oh, ça c'est historique, c'est en train de basculer, c'est en train de changer, puisque la preuve, vous m'invitez aussi ce matin, et puis on parle de plus en plus de biodiversité quand même, mais c'est certain que le climat c'est relativement plus simple. Je dis bien relativement, je ne dis pas que c'est simple de traiter de la question du climat, mais le climat c'est de la température, c'est de l'humidité, ce sont quelques paramètres assez simples que tout le monde peut comprendre. Et la biodiversité, comme je le disais, c'est différentes facettes, c'est beaucoup de facettes différentes. On peut s'intéresser aux récifs coralliens, aux forêts tropicales, aux déserts, aux forêts tempérées, aux plaines agricoles, etc. Tout ça, c'est différent. Et c'est quand même de la biodiversité.
Et c'est spectaculaire, les changements dus au climat, les changements climatiques, c'est spectaculaire. Alors que par ailleurs, il y a toute une partie invisible. Qui progressent.
Oui, les changements climatiques, on les perçoit à travers des événements un peu extrêmes, à travers un été 2019 où il faisait plus de 40 degrés à Paris. Voilà. On les perçoit
les
comme ça.
Les tempêtes de feu en Australie, les choses.
La biodiversité, c'est plus anesthésiant, c'est-à-dire qu'il y a des déclins d'espèces où il y a de moins en moins d'individus d'une espèce, mais on ne fait pas très attention et d'une saison à l'autre, on n'a plus en mémoire combien on avait vu de moineaux la saison précédente, en quelque sorte.
Justement, parmi les déclins les plus visibles, il y a la disparition des oiseaux communs. C'est le combat d'Alain Bougrain-Dubourg avec avec sa ligue de protection des oiseaux. Ce ne sont pour l'instant que des déclins et non pas des disparitions. Et justement, comme ce ne sont que des déclins, finalement, ça motive pas grand monde, on a le sentiment.
Et pourtant, c'est très important parce que quand on analyse ce qui s'est produit dans les grandes crises du passé géologique de la Terre, ces grandes crises ont fonctionné à partir de déclins, justement. Donc on est vraiment sur les mêmes mécanismes et on est sur ces déclins d'abondance où il y a de moins en moins d'individus d'une espèce donnée, sans pour autant qu'il y ait des cadavres qui jonchent le sol. On a eu un exemple très récent la semaine dernière avec les étourneaux à Rome. On a eu des milliers d'étourneaux morts qui ont été trouvés dans les rues de Rome. Mais ça, c'est une hécatombe, c'est pas une extinction. On a la cause, on sait que c'était les feux d'artifice du Nouvel An. Ça a produit une certaine mortalité, mais ça n'est pas une extinction. Les extinctions fonctionnent par des déclins qui sont relativement invisibles parce qu'on ne les perçoit pas et on ne les mémorise pas.
Tout le monde avance masqué désormais.
Et tout le monde avance masqué, y compris les déclins d'abondance.
Et pour défendre la biodiversité, il y a aussi une part d'émotion qui entre en jeu dans l'opinion. En fait, nous sommes plus sensibles à la disparition d'un ours blanc que du plancton. Or, c'est bien la protection du plancton qui est déterminante pour le reste.
Oui, bien sûr. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment par des chercheurs du muséum, et qui ont démontré qu'on était affectivement plus proche des espèces dont nous sommes les plus proches dans l'histoire de l'évolution. On est plus proche d'un mammifère qu'on ne le serait d'un poisson, et encore plus proche, et on est quand même aussi plus proche d'un poisson qu'on ne le serait d'un ver de terre. En gros, c'est ça. La seule exception, ce sont les arbres. Parce qu'on est loin des arbres dans l'histoire de l'évolution, mais on aime bien les arbres.
Est-ce qu'il faut donc prioriser la défense de la biodiversité ?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut prioriser la défense d'écosystèmes en général, et avec toute la biodiversité qu'ils contiennent. Mais il est certain que pour les équilibres, les grands équilibres écologiques de la planète, tout ce qui est micro-biodiversité est plus important que ce qui est macro-biodiversité. Si je suis un peu dur quand même, en exagérant, en forçant un peu le trait, je préviens les auditeurs, je force le trait, si l'ours blanc disparaissait, ça ne serait pas un bouleversement pour la planète. Si la biodiversité des sols disparaît, c'est une catastrophe planétaire.
Quelles sont les biodiversités les plus menacées aujourd'hui directement ?
Alors, j'aime pas faire des hiérarchies comme ça, parce que selon les écosystèmes, justement, on va pas avoir les mêmes facteurs de pression et on n'aura pas forcément les mêmes menaces qui vont peser sur ces écosystèmes.
Celles qui vous inquiètent le plus, en tout cas ?
Alors, si je prends l'océan, ça va être la surexploitation des ressources et la diminution des poissons. Et on voit très bien que les méduses viennent remplacer les poissons. Sur les continents, vraiment, la biodiversité des sols est essentielle. Et les atteintes qu'on peut porter à cette biodiversité des sols en utilisant les espaces, en artificialisant les espaces ou en traitant l'agriculture d'une certaine manière, en pratiquant une certaine agriculture, ça met à mal vraiment la biodiversité des sols et c'est de ça dont on vit.
Trop de béton, trop de grandes surfaces dans les terres maraîchères.
Des bétons, des grandes surfaces, des parkings, des piscines, des abris de jardin, enfin vous pouvez faire une très très grande liste. On perd à peu près un département tous les 7-8 ans en France, donc il y a 100 départements.
On perd l'équivalent d'un département en terre fraîche, j'allais dire.
En terre utilisable, que ce soit des terres agricoles ou des terres, des forêts ou des grandes prairies, on perd à peu près la surface d'un département tous les 7-8 ans. Donc ça veut dire qu'en 700-800 ans, on a bétonné la France. Ça ne se passera pas comme ça, je ne pense pas. Mais néanmoins, ça donne une mesure de la vitesse à laquelle nous engageons les choses.
Mais Bruno David, si on considère la profondeur de la vie sur Terre, il est, si on met ça à l'échelle d'une journée, il est minuit moins une.
Non, à l'échelle d'une année même.
D'une année, voilà.
Si on considère que la vie a commencé le 1er janvier, ouais. L'homme arrive, notre ère chrétienne, 2000 ans, ça arrive le 31 décembre à 23h59min40s. C'est-à-dire notre histoire, ce sont les 20 dernières secondes de l'année. Pour donner la proportion de ce que nous représentons. Et du haut de ces 20 dernières secondes, on prétend modifier tout ce qui a précédé.
Mais il est temps d'agir, on a le temps en 20 secondes ?
Il est temps d'agir, même pas 20 secondes, on est dans une fraction de seconde.
Culpabiliser, ça vous le montrez bien aussi dans votre livre, culpabiliser ça sert à rien.
Non, je pense pas qu'il faille culpabiliser, je pense qu'on a le temps de réagir parce que la biodiversité, j'aime beaucoup une formule d'Isabelle Autissier qui dit la biodiversité est bonne fille, c'est-à-dire qu'elle réagit bien, si on la laisse tranquille elle va bien réagir. Donc on peut réagir, on a beaucoup agi, maintenant on peut réagir par rapport à nos actions, on peut le faire et la biodiversité réagira aussi. Et donc moi je suis relativement optimiste pour ça, on n'est pas engagé trop loin pour le moment, c'est pour ça que le livre s'appelle « À l'aube de la sixième extinction », on n'est pas au soir de l'extinction, mais je pense
on serait plus là pour le dire d'ailleurs.
N'attendons pas le soir pour agir, n'attendons pas même pas midi pour agir.
Parce qu'il faut rappeler aussi que l'être humain a besoin de la Terre, mais la Terre finalement elle n'a pas beaucoup besoin de nous.
Non, la Terre, elle a besoin de rien. Elle est. C'est tout. Il n'y a pas de... Mais effectivement, moi, ce qui m'inquiète, ça serait éventuellement la disparition de nos sociétés. Ça serait le déséquilibre qui pourrait s'introduire dans le fonctionnement même de nos sociétés. C'est éventuellement la disparition de l'espèce humaine. Mais je me fais aucun souci, ça je le dis souvent, sur le futur de la vie sur Terre. Tant que le Soleil n'est pas devenu une géante rouge et qu'on n'est pas dans, qu'il n'a pas absorbé littéralement la Terre, qui là, pour le coup, sera devenu totalement invivable, mais c'est dans 4 milliards d'années, donc on a quand même vraiment le temps de le voir venir.
De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas de plan B. Hein.
Là, on n'a pas de plan B.
On ne peut pas aller
vivre
ailleurs.
Il n'y a pas de planète B.
Non, ça, j'insiste aussi là-dessus, parce que souvent, bon, on rêve, et moi j'adore l'astronomie aussi, et on se dit, tiens, il y a des planètes qui ressembleraient à la Terre, et une qui n'est pas trop loin de nous, qui est Proxima B, dans Proxima du Centaure. Déjà, il faut un temps fou pour y aller, avec les moyens actuels. C'est 20 000 ans pour y aller, donc on n'a pas très envie d'y aller. Et puis, c'est une planète qui ne tourne pas sur elle-même, donc il y a une partie très chaude, une partie très froide. Alors, on peut se dire, on peut se mettre sur la bande du milieu, qui est à peu près tempérée. Puis, c'est une planète qui est 1,7 fois plus grosse que la Terre. Ce qui veut dire qu'elle a une gravité plus importante, donc on serait plaqué au sol. Très difficile de se mouvoir. Et puis, pire que ça, si on veut être debout, notre cœur n'aurait pas la puissance pour faire remonter le sang dans le cerveau,
dans
la tête.
Ça donne pas très envie d'y aller, effectivement.
Non, donc après, s'il y a des candidats, bon, ma foi, qu'ils y aillent.
Et pour défendre votre cause, vous devez lutter aussi aujourd'hui avec Internet, qui a amplifié la parole des climato-sceptiques, la parole des... qui mettent en doute le constat que vous faites dans le livre. Vous confirmez que la défiance envers les sciences gagne du terrain là aussi chaque jour.
Oui, parce que on a tendance à ramener la science à une opinion, et c'est ça le problème, parce qu'après on est sur un sujet de confrontation d'opinion, et on perd la relation qu'on doit avoir avec le fait scientifique. Et souvent les gens s'appuient sur le fait même que la science est capable de se remettre en question, et ça leur permet de dire, vous voyez, la science, elle dit n'importe quoi, elle change d'avis. Non, c'est bien ça qui fait la force de la science, c'est d'être capable de s'autocritiquer et d'évoluer, d'avancer, et de faire évoluer un certain nombre de théories scientifiques pour affiner la connaissance.
Et dans ce débat, Donald Trump, ses fake news, ses faits alternatifs ne vous ont pas beaucoup aidé pour développer la défense de la biodiversité, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
À la limite... c'est tellement excessif que ça peut presque
contre-productif devenir, pour lui.
Ça devient presque une aide parce que moi un fait alternatif j'appelle ça un mensonge. Hein. Bon, à un moment donné.
Il n'y a que Donald Trump pour penser que c'est une réalité.
Donc,
D'ailleurs pour ceux qui ne pensent qu'au profit et qu'à l'argent pour la biodiversité, eh bien là aussi vous avez des arguments pour la préservation de la biodiversité. Sans la pollinisation, écrivez-vous, ce serait des pertes en milliards d'euros rien que pour la France.
Oui, ça a été chiffré. Alors moi j'aime pas bien donner une valeur économique à des services écosystémiques. Mais
pourtant, c'est le nerf de la guerre aussi.
Voilà. Mais on est dans un système comme celui-ci, et donc c'est important aussi d'être en capacité de le faire. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a des économistes qui s'en sont chargés, qui sont bien plus compétents que moi pour le faire. Mais néanmoins, on se rend compte que les services rendus par la vie sur Terre, ça se chiffre en milliers de milliards d'euros. Donc, c'est plus que le budget de beaucoup, beaucoup d'États, rien que pour la pollinisation. Et c'est pareil pour le fait qu'on respire l'oxygène qui est fabriqué par l'océan, etc. etc.
Bruno David, qu'est-ce que les temps que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la pandémie, peut nous apprendre? Je vous pose la question parce que vous y consacrez un chapitre.
Oui, c'est un chapitre que j'ai rajouté puisque j'ai fini d'écrire le livre.
Au moment où ça a commencé.
Au moment où la pandémie commençait. Alors la pandémie, elle nous montre différentes choses. Je pense qu'elle nous montre notre relation au reste du vivant sur Terre. Elle nous montre à quel point aussi nous sommes fragiles. Parce qu'on a tendance à nous glorifier de notre savoir-faire technologique et on a une forme d'arrogance vis-à-vis du reste de la planète. Et la pandémie nous ramène un peu à notre échelle en nous disant, bon voilà, un tout petit virus avec un tout petit bout de génome, voilà ce qu'il est capable de nous faire.
Donc, et c'est pas la peine d'incriminer les chauves-souris ou qui sait...
N'incriminons personne.
Ou le pangolin.
C'est comme ça. Et en tout cas, ça nous montre aussi notre fragilité, ça nous montre notre complexité en tant qu'être vivant, et cette complexité nous rend fragiles. Et ça nous montre qu'on a besoin de la biodiversité, parce que penser qu'en éradiquant la faune sauvage, on va pouvoir résoudre nos problèmes parce qu'il n'y aura plus de pathogènes, c'est totalement faux, parce que les pathogènes vont se retourner contre nous, puisqu'ils n'auront rien d'autre à manger, en quelque sorte. Donc plus on aura de la biodiversité, plus les pathogènes vont se distribuer sur cette biodiversité, et moins finalement ils auront tendance à venir vers nous. Donc protégeons la biodiversité, ça sera vraiment nous protéger nous-mêmes.
À partir de demain se tiendra à Paris le One Planet Summit, le sommet pour la planète, consacré justement à la protection de la nature. Et puis en mai, il y aura la COP15 de l'ONU en Chine. Est-ce que ce seront des sommets de plus ou est-ce que effectivement vous attendez des décisions avec un réel impact ?
Alors moi j'ai de l'espoir. On pensait que ça allait être l'année 2020, allait être l'année de la biodiversité, puisque c'est un certain nombre de ces événements devaient se tenir en 2020, ils se tiendront en 2021. Donc j'espère vraiment que 2021 sera cette année de la biodiversité.
C'est-à-dire que le One Planet Summit, même à distance, il n'aura pas lieu à Paris demain ?
Si, il aura lieu à Paris. Non, ça, on est bien en 2021. Ouais. Donc ça aura bien lieu en 2021.
Oui, bien sûr, mais pardon.
Je vous rappelle que nous sommes en 2021.
Avant, c'était seulement avec l'heure qu'il avait un problème. Maintenant, c'est aussi avec les années.
Et les calendriers, effectivement. Allez-y, pardon.
Donc voilà. Et je pense que même s'il n'y a pas d'action immédiate, il y a des forces de symbole quand même. On se souvient de la COP21 sur le climat.
À Paris.
Même si derrière, il n'y a pas eu en 2015, donc s'il n'y a pas eu tant d'actions que ça, concrètement, ça n'a pas bouleversé la façon de fonctionner. C'est le moins qu'on puisse dire. Symboliquement, on s'y rattache. Et ça fait partie d'une première étape d'une démarche, je pense. Donc, vous voyez, je suis vraiment très optimiste ce matin. Et on a besoin de ces premières étapes. On a besoin d'un élément déclencheur. On a besoin d'un moment où on va dire, à partir de là, on va vraiment s'en occuper.
Est-ce que la Chine s'en rend compte ? Est-ce qu'elle évolue, d'ailleurs, en ce qui concerne les biodiversités, qu'on accuse souvent la Chine de ne rien respecter, sauf l'argent ? Est-ce que c'est en train de changer ?
Alors écoutez, je ne suis pas chinois, je ne suis pas spécialiste de la Chine, j'ai peur que ça ne change pas tant que ça. Et je le dis aussi dans le livre, je pense que si on avait un PIB qui intègre la dimension environnementale, celui de la Chine serait très mauvais. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ça, c'est-à-dire qu'il faut considérer que l'environnement en général, c'est une forme de capital, et que si on grignote ce capital, c'est négatif par rapport à ce que fait un État, et par rapport à sa trajectoire aussi économique.
Et l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, c'est plutôt une bonne nouvelle en matière
C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça pouvait difficilement être pire qu'avec son bientôt prédécesseur. Et donc évidemment, c'est une relativement bonne nouvelle. Après, moi, j'attends de savoir ce qui va se passer quand même.
À l'aube de la 6e extinction, c'est le titre de votre livre, ça veut dire qu'il y en a eu 5 autres extinctions. La dernière, c'était la disparition des dinosaures et des ammonites à la toute fin du Crétacé. À l'époque, avec quelle incidence écologique ?
Alors, ça a été une crise, la cinquième crise, il y a 66 millions d'années, qui n'a pas frappé tant d'espèces que ça. En nombre d'espèces atteintes, ça n'a pas été tant que ça. Par contre, ça a touché des espèces qui étaient vraiment des espèces très importantes dans le fonctionnement des écosystèmes, ce qui fait que les écosystèmes du début du tertiaire, de l'ère tertiaire, ont été radicalement différents de ceux de la fin du Crétacé. Dans les océans, les ammonites ont disparu, donc elles ont laissé la place aux poissons qui se sont énormément développés. Ils existaient déjà avant, mais ils sont énormément développés. Et puis, sur les continent, la disparition de tous les grands dinosaures a laissé la place aux oiseaux et aux mammifères.
Mais on a quand même changé d'ordre de grandeur maintenant.
On a changé d'ordre de grandeur, oui.
On va terminer avec, parmi les marqueurs qui illustrent le déclin de certaines espèces, il y a les films Walt Disney. Qu'est-ce que les dessins animés des années 50 viennent faire dans cette histoire ?
Alors là aussi, c'est grâce à une équipe du muséum qui a fait une étude sur les dessins animés de Walt Disney. Je précise bien Walt Disney. Et on s'est rendu compte que, en dehors des personnages principaux, la biodiversité qui environnait l'histoire, qui était présente dans l'histoire, donc le nombre d'espèces finalement qui étaient présentes dans l'histoire, n'a fait que décroître au fil des décennies. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'animaux dans Blanche-Neige qu'il y en avait dans Mulan. Alors, de temps en temps, il y a d'autres dessins animés où il y a beaucoup d'animaux. Quand on pense à Madagascar, par exemple, ou à l'âge de glace, là, il y a pas mal d'espèces parce que là, le sujet même, c'est la diversité. Mais sur les dessins animés de Walt Disney, il y a de moins en moins d'animaux et ça veut dire qu'il y a une sorte de distance culturelle qui s'est installée dans la population en général entre ce que nous sommes et le reste du vivant.
Eh bien merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter. Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, je vous donne le titre de votre livre, À l'aube de la 6e extinction, comment habiter la mer, la terre et les mers aussi, pourquoi pas, sauf les habiter, mais comment habiter la terre, c'est le sous-titre de ce livre et c'est paru chez Grasset. Merci beaucoup Bruno
Merci
David.
Merci beaucoup.
Et puis toujours à propos de nature, les origines du monde et l'invention de la nature, ce sera justement le thème dans un instant de la chronique Classique & Co avec Anna Sigalevitch. Merci et bonne journée. Il est 9h20.